Salut à tous! Petite annonce avant de rentrer dans cet épisode de Vue du Banc. Pour vous rappeler qu'à l'inscription sur PMU.fr, notre partenaire, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € offerts avec le code VDB. Et n'oubliez pas de jouer responsable.
Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 10e épisode de la saison 9 de Vue du Banc. Aujourd'hui, c'est Ligue Europa, puisque trois équipes françaises étaient engagées en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, puisqu'on va aussi parler du Stade Rennais. Je suis accompagné de Florent Tenuti, salut Flo.
Salut Raphaël.
Et de Christophe Cuffly, salut Christophe.
Bonjour Raphaël, bonjour Florent, bonjour tout le monde.
Le professeur Cuffly qui est avec nous et qui va rester silencieux sur le premier match qu'on va traiter, puisque c'est le match entre Rennes et le Vitesse Arnhem, match qu'il n'a pas vu. Il était devant le Galatasaray OM, riche en buts, on en parlera après. On s'est un peu plaint dans l'entourage de Vue du Banc, dans notre public, Florent, de notre manque de mention du Stade Rennais dans les épisodes de Vue du Banc.
Oui.
Et c'est vrai que comme on ne fait pas la Ligue 1 cette année, bah, on n'a pas pu parler de leurs belles performances en Ligue 1, notamment ces dernières semaines. Mais ça y est, on était devant Rennes-Vitesse Arnhem, match au Roazhon Park, remporté trois partout. J'étais bloqué sur le 3-1 avec le triplé de Gaëtan Laborde, pas du tout, 3 partout, mais ça a quand même permis à Rennes de se qualifier en première place du groupe, puisque Tottenham, dans le même temps, a perdu contre Murat. Ça, c'était la surprise de la journée.
Perdu dernière seconde, alors qu'ils étaient, enfin, que Tottenham était à 10 depuis pas mal de temps. Et exploit, je pense qu'on en parlait avec Christophe, Murat revivra peut-être jamais ça dans son histoire. Quoi.
Écoute, je lisais un tweet de quelqu'un qui surveille le classement Elo des clubs, justement, et Murat, je crois, est entre la 300e et la 400e place. C'est la deuxième pire équipe classée de toutes les compétitions européennes cette saison, sachant que la pire est le FC Flora.
De Tallinn, Estonie, ouais.
Qui a remporté d'ailleurs un match, je crois, aujourd'hui même. C'est la première fois que ça leur arrive depuis.
C'est étonnant que ce ne soit pas Lincoln, le club de Gibraltar.
Mais ils sont engagés encore ?
Ouais, ils sont en poule, ils ont 0 points, mais ils sont toujours là.
Et bah écoute, ils sont mieux classés que le FC Flora. Ah, et que Murat, qui a donc battu le Tottenham de Antonio Conte, qui a dit après le match qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes à Tottenham. Donc, ce qui peut se comprendre. Mais bref, revenons à Rennes, donc 3 buts partout, triplé de Gaëtan Laborde, 9e, 39e, 69e. De l'autre côté, des buts de Dan Huisman, Thomas Buntic et Loïs Openda. Un bon joueur, on va peut-être évoquer d'ailleurs. Les compositions du côté de Rennes, Gomis dans les buts, une défense à 4, Traoré, Omari, Agard, Melling, un milieu à 3, Maier, Santa Maria, T. Et devant, Bourigeau à droite, Terry à gauche, mais qui se recentrait souvent, et Laborde en pointe. Je ne vais pas forcément donner la compo du Vitesse Arnhem, parce qu'on ne connaît quasiment personne. Vous devez connaître quand même Bazover.
Oui, de nom.
Et Yann Gbo, qui vient de Rennes, qui était titulaire là, dans l'équipe du Vitesse. Je ne connaissais pas Openda, attaquant belge, mais pas mauvais.
Donc, très mobile, très remuant sur tout le front de l'attaque, celui-là.
Et c'est lui qui égalise à la 90e minute. On va commencer par la première période, Flo, celle que Rennes a largement dominée, avec du pressing, avec du mouvement, avec un volume de course qui est peut-être la marque de fabrique de Rennes. Je dirais pas cette saison forcément, mais en tout cas depuis que ça tourne bien.
Oui, volume de course, c'est surtout ça qui est marquant en fait avec cette équipe quand on la voit jouer. C'est que bah, déjà, on va prendre, si on prend le 11 tel que tu l'as cité, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a assez peu de joueurs qui sont forts dans l'élimination quand Souleymane et Doku sont pas là. Tate qui peut casser des lignes un petit peu balle au pied et faire des différences. Mais globalement, c'est surtout le mouvement qui va apporter le déséquilibre. Et c'est vrai que de ce point de vue, entre Terrier, Laborde, T, évidemment, Bourigeau, les latéraux aussi qui peuvent participer, Traoré et Melling, et Maier qui n'a pas le changement de rythme mais qui court quasiment tout le temps. T'as quand même une équipe qui, via des passe-va, via des déplacements, via des appels généreux, est capable de déstabiliser assez rapidement un adversaire et en mettant beaucoup de rythme, de trouver des solutions et des accès à la surface.
Avec souvent plusieurs courses en même temps, c'est ça qui est différent par rapport à d'autres équipes où il va peut-être y avoir un joueur qui va partir dans le dos et si l'appel est contrôlé, bah ça va. Mais là, à Rennes, t'as souvent 2-3 joueurs qui partent en même temps et tu as les pieds de Maier, de Santa Maria, de T pour trouver pas forcément le premier appel. Ça aussi. C'est ce qui avait marché contre Lyon aussi, hein, Flo, lors du match où ils avaient écrasé Lyon avant la trêve.
Ouais, alors que tu vois, quand on revient un petit peu en arrière, le match face au PSG, ça avait surtout été l'énorme match de Souleymana qui les avait portés sur pas mal de séquences. Et là, c'est vrai que sur ce match-là contre le Vitesse, bon, qui s'est mal terminé, Mais sur cette première mi-temps et sur le match contre Lyon, tu sens par contre là une vraie force collective, un vrai entrain, beaucoup de rythme, parce que en plus, les mecs courent beaucoup pour aller dans le but adverse et dans le dernier tiers, sont très généreux dans les appels, mais ils sont aussi très généreux dans le repli, parce que quand tu as des T qui se projettent, des maillères qui se projettent, parfois l'équilibre, tu peux être un petit peu chancelant quand même à la perte de balle, mais sur la transition def, généralement, les Rennais courent toujours beaucoup plus vite que leurs adversaires. Et sur ce match-là, il y a des transitions def où tu disais « Oula, Arnhem arrive bien à sortir ». Et finalement, près de la surface, c'était du 7 contre 4, parce que tous les milieux rennais étaient revenus notamment.
Ouais, je me souviens aussi d'une course de Terrier qui revient pour aider Melling sur le côté et qui va gratter un ballon comme ça en première période en faisant l'effort. C'est une équipe qui court beaucoup pour presser aussi, Flo. Alors on l'a moins vu en deuxième période parce qu'ils ont subi. Et je pense qu'il y a eu aussi l'effet du score effect, ce qu'appellent les Anglais. Quand tu mènes au score, tu as tendance à reculer, à laisser le ballon à l'adversaire. Mais
ouais, l'effet du score peut-être aussi. Alors, je n'ai pas assez vu donc, cette saison, donc je n'ai pas dû tomber dessus. Mais c'est vrai que quand tu fais rentrer Guirassy, tu perds peut-être aussi un joueur capable de faire les efforts en première ligne. Et je pense que tu t'affaiblis sur ce plan-là du pressing, quoi, quand tu fais rentrer Guirassy.
Il a sorti aussi deux de ses trois milieux. Hein. Il a sorti Maillard, il a sorti T en cours de match.
Ouais.
Donc il a perdu un peu de volume au milieu. Il a mis Ogbuchukwu. Il a fait rentrer Doku et Souleymana. Mais d'ailleurs, ça va être une question aussi intéressante sur les semaines et les mois à venir de Rennes. C'est quelle place pour Doku et Souleymana quand tu vois à quel point ça tourne bien sans eux. Alors que quand tu vois la construction de l'effectif, tu te dis ils vont avoir des joueurs de 1 contre 1 sur chaque côté. Des latéraux qui vont pouvoir dédoubler et ça va jouer comme ça. Et en fait, avec des joueurs comme T et comme Maillard, ça a un peu changé le style de jeu de ton équipe.
Et Terrier aussi, dans ce rôle-là que j'ai trouvé très bon. Alors, c'est pas pour t'envoyer une, une pique, hein, mais t'as fait ton match.
J'ai fait mon mea culpa public dans un article pour l'équipe où je disais beaucoup de bien de Martin Terrier, mais qui est meilleur quand il peut combiner avec des partenaires. Donc c'est sûr.
Oui, et là, vu que ça bouge partout, il est plutôt bien.
Si tu veux mettre deux ailiers et que ça centre, ça va pas être les meilleures conditions. Mais là, avec autant de joueurs de ballon, c'est intéressant. Maillard a encore fait un bon match et d'ailleurs, il est impliqué sur certains buts. Puis après, t'as Gaëtan Laborde qui est un peu le symbole de ce Rennes-là, je trouve, dans l'activité et dans son style de jeu.
Et puis dans la réussite actuelle, parce qu'il est quand même en feu à la finition depuis quelques temps quand même. Je sais pas, il doit être sur une petite série de buts marqués, là, je pense, sur les dernières semaines, j'ai l'impression.
C'était déjà le meilleur buteur rennais en championnat, Gaëtan Laborde, puisqu'il est déjà à 5 buts, tout comme Martin Terrier d'ailleurs. Il a 2 passes D et en Ligue Europa, il en est déjà. Enfin, Conference League, je vais arriver à le dire.
Il est meilleur buteur, je crois.
Il est à 5 buts, ouais.
Je crois qu'il est meilleur buteur, mais d'ailleurs, j'avais chopé des stats pour. Sur les 5 premiers matchs, là, Rennes en nombre de tirs par match, 18 contre Tottenham, bon, 13 à l'aller contre le Vitesse, 28 et 26 contre Murat, et 16 sur le match là face au Vitesse Arnhem. Le problème, c'est que sur ce match-là, le Vitesse Arnhem en a tenté 17. Et déjà à l'aller, le Vitesse Arnhem avait plus tiré au but que Rennes, puisqu'ils avaient tenté 20 tirs. Donc il y a eu aussi des soucis de l'autre côté du terrain.
Et c'est l'équipe qui tire le plus en Ligue 1 aussi, Rennes. 15,6 tirs par match. Sachant qu'ils avaient un peu mal démarré, mais ils ont vraiment explosé leur stats depuis 2 mois à peu près et leur série de belles performances.
Ouais, en fait, en compilant les chiffres, j'étais plus à la recherche en fait, du total de tirs de Rennes en Conference League pour comparer par rapport aux autres équipes. Engagé, malheureusement, j'ai pas trouvé le total, mais je pense qu'ils doivent pas être loin parce que Laborde et Souleymana, on a évoqué Laborde qui est meilleur buteur ou pas loin de la compétition, mais Laborde et Souleymana à eux deux, c'est 33 tirs, et je crois que Laborde est premier ex aequo en termes de tirs tentés avec 17, et Souleymana est deuxième avec 16. Donc, à partir du moment où Rennes a des 4 tireurs les plus prolifiques en conférencing, je pense qu'ils doivent pas être très loin des meilleures équipes ou d'être la meilleure équipe aussi dans ce domaine.
Est-ce qu'il y a des individualités qui t'ont particulièrement plu, Flo, côté Rennais ?
Pas vraiment, parce qu'en fait, moi, ma manière de voir le match aujourd'hui, j'ai fait 2x2 écrans, donc j'alternais beaucoup et je voyais plus les mouvements et les mécanismes collectifs quand je regardais que des individualités qui auraient pu être constantes sur 80 minutes, parce que j'avais le match de Marseille en parallèle. Donc tu seras mieux placé, je pense, pour désigner ton ou tes hommes du match.
Bah alors, il y a forcément Laborde qui met un triplé, mais qui était plus en bout de chaîne aujourd'hui. Il n'était pas forcément impliqué dans les combinaisons rennaises. Mais Flavien T, quand même, il y a un côté créatif, capable d'éliminer, de casser les lignes balle au pied, de faire le bon choix dans les 30 derniers mètres. Il est jamais paniqué avec ballon. Et son profil, ce replacement un peu plus bas
dans
sur
l'axe.
Le terrain, je trouve, lui va très bien. Ouais, et dans l'axe, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le Iniesta du Stade Rennais, tu vois, mais il y a un côté joueur adapté à ce football-là et à ces zones-là. Et c'est assez étonnant finalement qu'on l'ait pas vu plus tôt là dans sa carrière. Après, il a pas forcément joué souvent dans des équipes qui avaient le ballon.
Il y a surtout un côté box-to-box en fait. Vraiment.
Ouais, mais box-to-box, fin balle au pied. Tu vois, c'est pas. Je sais pas qui. C'est pas Cheikh Kouyaté par exemple.
Oui, enfin, ouais, enfin, pour moi, Cheikh Kouyaté, c'est pas un box-to-box non plus.
Mais je, non. Alors, de qui je vais pouvoir te parler? Je confonds avec un autre milieu de West Ham que j'aimais bien d'ailleurs. Je vais le retrouver. Vas-y, continue, Flo.
Non, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on parlait de la capacité des attaquants, notamment par leur déplacement, faire des appels généreux et ouvrir des espaces et créer des brèches. Et c'est ce joueur-là qui, quand il va prendre la balle intérieure, s'il y a un espace devant lui, il va de suite l'attaquer balle au pied, en fait. Il va de suite aller percuter, de suite aller fixer. Et ça, il le faisait déjà dans un milieu à deux, auparavant. Et là, dans un milieu à trois, bah, il continue avec Maier à côté, qui apporte un peu plus de pause et qui permet d'avoir un peu plus de pouvoir un peu alterner entre tout le temps à fond et des petites ouvertures un peu plus techniques et un peu plus bien, un peu mieux senties parfois, mais ouais, t'es très intéressant. Et sur la, je crois qu'en termes de stats, sur pas mal de stats, notamment les distances gagnées par la conduite, je crois qu'il est parmi les meilleurs joueurs d'Europe depuis le début de la saison sur FBRF. Je vais aller vérifier de suite. Mais oui, très très intéressant dans ce registre où ouais, il apporte de la percussion. Quand il y a un espace qui est ouvert devant lui, bah, il fonce. Et en plus, il trouve des solutions parce qu'autour de lui aussi, il y a des joueurs qui refont des appels une fois qu'il a la balle. Et ça lui permet de trouver notamment des entrées dans la surface.
Bah, avec Maier et lui, ils ont deux joueurs capables de donner cette dernière passe et d'éliminer balle au pied dans des petits espaces, de combiner avec Terrier et Laborde. Ça, c'est assez intéressant. Bourigeaud est un peu en périphérie parce que c'est un joueur qui va être bon sur des centres plus lointains et qui va un peu plus coller la ligne que Terrier.
Là,
et
tu vois,
c'est un peu asymétrique, mais en tout cas, je trouve ça vraiment plutôt sympa à voir, Rennes.
Les stats, ah voilà, bah, tu vois, il y a parfois le truc d'FBRF sur les joueurs similaires, tu sais, quand tu vois sur le scouting report. Parfois, c'est pas toujours très. Enfin, je suis pas toujours d'accord, mais là, c'est vrai qu'il y a un joueur qui ressort, le joueur le plus similaire à Flavien Thé, à votre avis. Tiens, je vous pose la question.
Il va falloir peut-être recentrer un petit peu la chose, parce que sinon, c'est un peu vaste.
Sur les stats. Alors, il est très bon. Alors, il est au-dessus des 90% dans passe progressive reçue. Donc, c'est quelqu'un qui se place bien entre les lignes. Touche dans la surface de réparation adverse. Progressive carries, donc les ballons portés, balles au pied. Il est dans le top 96. Création d'action, top 96% aussi. NPIG, il est devant aussi.
Alors, faut préciser, Flo, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de toucher à ce genre de stats, que ça veut dire qu'il est dans les 4% des milieux qui touche le plus de ballons dans cette zone-là. Enfin, si tu dis top 96,
oui,
en fait, c'est dans les...
C'est les 4% les plus forts. Ouais.
Voilà.
C'est tout en haut. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Il y a 3-4 joueurs où je me dis, ouais, ça colle. Et notamment un qui est champion d'Europe. Oui, qui est champion d'Europe.
Barella?
Ouais, c'est le premier qui ressort. Et c'est vrai que ça colle un petit peu, je trouve. Ça colle un petit peu dans l'esprit. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, ouais. Je trouve Barella plus vertical dans ses déplacements. Mais je trouve T peut-être plus varié dans ce qu'il peut faire avec ballon, quoi. Barella me semble un peu plus puissant, tu vois, plus box-to-box justement que Flavien T, qui pour moi pourrait jouer plus bas et orienter le jeu, comme il l'a fait d'ailleurs quand Rennes était un peu à deux au milieu et qu'il était avec un autre partenaire.
Après, peut-être intervenir quand même, c'est-à-dire que là t'as comparé T et Barella, t'as dit
non, mais bien sûr,
T fait ça mieux et fait ça moins bien, genre sous-entendu il y a
à son niveau de compétition, tu vois, compétition.
Recentrer quand même Barella, même si je trouve pas incroyable sur certaines dernières performances, même en sélection italienne. On est sur deux sphères différentes, mais mini intervention de ma part avant de retourner en sommeil.
Ah,
pour dire
sûr.
Que voir T à ce niveau-là, c'est pas forcément quelque chose que j'attendais, notamment sur. Enfin voilà, depuis. Alors évidemment à Angers, mais il était intéressant, il a acheté relativement cher pour un tel profil, mais sur ses premiers mois, même ses premières années à Angers, je voyais pas forcément une intelligence de jeu, une créativité à ce niveau-là. Sans forcément dire qu'il était bête sur le terrain, évidemment, mais. J'attendais potentiellement des choses de lui, mais là, ce qu'il me montre, c'est pas forcément une évolution que j'imaginais. Donc, c'est c'est un développement assez, assez intéressant vu le profil.
Et les autres joueurs avec qui il est comparé, en dessous il y a Nadim Amiri, Leverkusen, Sergio Canales, Mason Mount et Luis Alberto. C'est les cinq, ouais. Les cinq premiers. Même si Luis Alberto, je suis moins convaincu parce qu'il n'a pas la même qualité de passe.
Non, mais Canales, sur le profil dans l'équipe dans laquelle ils évoluent, ça colle plutôt bien.
Parce qu'en plus, Canales peut cavaler avec le ballon. Quoi. C'est-à-dire, ouais. À la fois, il peut le recevoir entre les lignes, mais si l'espace est ouvert, il va aller percuter, il va aller fixer la défense. Donc, ouais, il peut y avoir, même s'il a encore, je préfère Canales qui est monté un peu plus haut. Mais rien que le fait de pouvoir être mis dans la même discussion sans exploser de rire et en se disant « Ah ouais, pourquoi pas ?» c'est déjà une vraie progression.
Sergio Canales qui a gagné aussi, puisque le Betis a gagné contre Ferencvaros 2-0. 2-0, ouais. C'était un de tes paris, Christophe, non ?
Moi, c'était 3-0. Enfin, c'était plus de 2 buts. Donc, écoute, tant pis.
Dommage, mais Canales a marqué, tout comme Christian Tello, et doublé de passe de Bellerin, donc des ex-joueurs du Barça impliqués dans la victoire du Betis contre Ferencvaros, qui est entraîné par Peter Stöger. Voilà, je vous donne cette info. Ce nom me dit quelque chose, donc je pense que je sais pas où on l'a vu, Peter Stöger, mais c'est un coach qu'on a dû voir un peu plus en Europe occidentale. Flo, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le match du Stade Rennais?
Bah, le fait
quelque chose qu'on n'a pas dit sur la qualité du Stade Rennais.
Le fait qu'ils se sont fait remonter quand même.
Oui, même si j'ai l'impression que la connaissance du résultat dans l'autre match a peut-être joué aussi.
La connaissance du résultat dans l'autre match, non. Ils perdent à la dernière seconde, hein, donc non.
Mais il y avait match nul.
En gagnant, Rennes se qualifie, et en concernant l'égalisation, Rennes ne se qualifie plus du tout. Donc au contraire.
Non, ça. Le but arrive à la dernière seconde, donc. Certes, mur à mener, mais bon, Tottenham est revenu, je ne sais pas à quel moment du match d'ailleurs. Donc la fin de match, non, fallait surtout pas perdre de points. Mais non, mais juste là-dessus, alors j'ai pas assez vu le match attentivement pour savoir où est-ce qu'il y a eu perte de contrôle, mais je peux dire que
Avec les changements à peu près.
Ouais, mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois en fait que je revenais, donc j'alternais, j'avais les deux sur le même écran et j'avais les yeux sur Marseille quand il y avait un temps mort, il y avait les yeux sur Rennes quand il y avait un temps mort, je repassais à Marseille, etc., etc. Et en fait, je me disais, tiens, à chaque fois que je repassais sur Rennes, ah putain, il se passe un truc. C'est-à-dire, soit Rennes attaque, soit ça déboule d'un côté, soit Arnhem ressort et ça déboule de l'autre. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et je me suis dit, on peut plus dire que Genesio donne pas de style à ses équipes, parce que ça me rappelait totalement les matchs de l'OL et les matchs de l'OL en Coupe d'Europe. Quoi. On était vraiment sur le même état d'esprit.
C'était déjà un peu le cas en première, hein, avant même que...
Oui, ouais, Arnhem avait des occasions, etc. Ouais.
Et c'est, enfin, je pense qu'en fait, si tu tombes contre une équipe qui est capable de répliquer à tes temps forts, ça peut souvent être fun comme ça. Lyon l'avait pas été du tout dans le match contre Rennes, parce qu'ils n'avaient pas du tout capable de faire des choses avec ballon. Mais ouais, il y a quand même cette idée de... Je pense, c'est peut-être lié au volume de course aussi, quoi. Vu que tu engages beaucoup de courses vers l'avant, bah, quand tu perds, t'es pas forcément placé pour presser la perte systématiquement.
Bah, c'est ça, quand tu perds, oui, ça peut repartir très vite dans l'autre sens. Hein.
Après, ça rend les matchs sympas, hein. C'est, pour le coup. C'est peut-être plus acceptable à Rennes qu'à Lyon, je sais pas. Il y a peut-être ce truc où tu te dis, tu devrais... tu rends le truc fun et en même temps tu gagnes des matchs, mais peut-être que si t'es plus haut au classement et avec un meilleur effectif, tu te dis que tu devrais contrôler ces matchs et pas laisser de chance à plus faible que toi.
C'est exactement ce que je me suis dit, ouais. On est sur la même réflexion, mais je suis en train d'aller voir les derniers matchs de Rennes d'ici la trêve.
Et
je
me Après, demande... ils explosent les adversaires en nombre de tirs à chaque fois, donc il y a ce côté match ouvert, mais pour l'instant, ils l'utilisent beaucoup mieux que leurs adversaires.
Tu vois, là, ils jouent Lorient le week-end prochain, Lorient qui est très bon en transition. Ça peut rendre un match intéressant. Pour peu qu'il y ait un score qui se débloque rapidement, parce que Lorient peut ne pas aussi avoir envie de trop ouvrir, ça peut partir un petit peu dans tous les sens aussi, je pense.
Rennes qui va avoir des matchs costauds d'ici la trêve, et ça permettra d'en savoir un peu plus. Ils vont notamment jouer Nice et Monaco avant la mi-saison.
Bah, Nice aussi, en transition, ça peut être rigolo comme match, hein, le Rennes-Nice.
Ouais, et le Nice-Rennes-Janvier, je ne sais pas. Et le 9 janvier pour le retour, il joue Lens. Donc là, t'as quand même trois rivaux potentiels qui s'enchaînent. Et ça sera le juge de paix de la saison rennaise, pour utiliser un lieu commun dont je ne connais pas l'origine. Christophe Kuchli, est-ce que tu es encore vivant ?
Absolument. Je vis et je revis même à vous écouter.
Très bien.
Parce que je me sens plus intelligent que je ne l'étais il y a un quart d'heure.
Et donc, pour répondre à votre question, votre interrogation tout à l'heure, Harry Kane avait égalisé à la 72e minute. Donc, il y avait 3-2 pour Rennes à ce moment-là. Non, 3-1 pour Rennes au moment où Harry Kane égalise. Et c'est ensuite... Ah bah, on va parler d'Openda un petit peu, Flo. parce que c'est lui qui égalise à la fin. Dernier mot sur ce match.
Tu vas en parler parce que je.
Ah ouais, t'as pas marqué ?
Bah, si, en fait, quand je le. À nouveau, quand mes yeux se reposaient sur le match, généralement, quand Arnhem ressortait un ballon, c'est souvent lui qui se retrouvait dans les 30 derniers mètres à essayer de devoir faire une différence, etc. Et je me disais, tiens, il est partout. Il arrive à faire des choses intéressantes avec le ballon, mais je saurais pas dire s'il a été consistant sur 90, mais j'ai l'impression que oui.
Que le podcast le plus honnête de France, hein. Vraiment, ben, si on a la moindre limite, on est
beau. J'ai passé la soirée avec les deux matchs à côté.
21 ans, Loïs Openda. Et ouais, hyper mobile, fort dos au jeu, des appuis quand même assez explosifs. L'an dernier, il fait déjà une bonne saison en vitesse parce qu'il a 10 buts et 4 passes décisives. Je lis Wikipédia, je ne connaissais pas le joueur avant ce soir. Il a marqué déjà 5 buts cette saison et sur le match, il est belge. Sur le match, c'était vraiment intriguant comme profil. Bah, c'est un mec, tu vois, que tu verrais bien venir en Ligue 1 et pourquoi pas suivre les trajectoires de joueurs comme Osimhen ou David qui sont venus du championnat belge. Alors lui, actuellement, est en Eredivisie, mais il était avant ça au Club Bruges et même au Standard de Liège dans sa formation. Donc je pense que c'est un mec qui serait assez fun à voir en Ligue 1 et je vois qu'il a déjà 12 buts en 14 matchs avec les espoirs belges. Ça m'étonne que Christophe Kuchli ne parle pas de Loïs Openda. Je pensais que c'était un profil à la Kuchli, ça, qui le connaîtrait.
Je connais le joueur et je l'ai déjà vu marquer avec les espoirs belges, mais j'ai aperçu deux fois dans ma vie, donc je ne vais pas faire un scouting report, mais je connaissais un peu le joueur, mais pas énormément.
En fait, j'ai déjà entendu le nom et il a dû faire des entrées en jeu en Ligue des Champions avec Bruges, je pense. Déjà
à une certaine époque où il est entré en Ligue des Champions en 2018-2019 et 2019-2020. Donc tu as dû le voir à cette époque-là.
C'est possible. Pour que sur une des deux saisons, Bruges était dans le groupe de Paris. Je sais plus si
c'est l'année où ils prennent c'est pas l'année où ils prennent la deuxième période de Mbappé, là ils prennent la tempête.
Possible. C'est cette année-là. Hein. Mais bref, oui. Tout ça pour dire que le nom me disait quelque chose, mais je vais pas aller plus loin.
Affaire à suivre, comme disaient les jeunes pour Luis Openda, qui sera peut-être, on l'espère, dans un club un peu plus réputé la saison prochaine. Et on pourra en reparler. Il a eu en 2019 le Lion belge. Ça, tu connais, Christophe, quand même, le Lion belge.
C'est le meilleur jeune joueur, non ?
C'est le meilleur footballeur d'origine arabe ou berbère évoluant en Belgique.
Et entre sales, souliers d'ébène, etc., ils aiment bien les choses un petit peu sur les provenances régionales en Belgique.
Les gagnants du Lyon belge, il y a eu pas mal de Boussoufa à une époque. Mehdi Carcella aussi, je vous le dis un peu. Ça va parler à Christophe, ça c'est le championnat belge des années 2010.
Marc Boussoufa, Mehdi Carcella Gonzalez. Toute une belle époque du football belge pour moi, peut-être pas objectivement, mais c'est l'époque où je le suivais beaucoup plus que le championnat de France.
Et du coup, le vainqueur du Lyon belge dans la catégorie meilleur joueur à l'étranger a été remporté 5 fois sur 5 par Marouane Fellaini. Parce qu'il ne doit pas y en avoir tellement, en fait. Donc, qui est au Shandong Luneng aujourd'hui. Fini cette digression, et on va passer au match entre Galatasaray et l'OM avec Christophe Kuchli, qui était devant le match, et avec Florent Tinti, qui était devant les deux matchs, puisqu'il est capable de faire plein de choses en même temps. Match remporté 4-2 par Galatasaray. Je vais donner la composition. Là, je vais quand même donner celle de Gala parce qu'on connaît un peu plus les joueurs. Mousselera dans les buts, apparemment auteur d'un grand match selon les stats. Yedlin, Nelson, Marcao et Van Aanholt derrière. Au milieu de terrain, Antalyaï, Koutlou et Sicaldo. Feghouli à droite, Aktürkoğlu à gauche. Je lis la compo au score, non, j'ai peut-être faux. Diagne devant et du côté de l'Olympique de Marseille. Paulo Lopez dans les buts. Lirola, Saliba, Caetachar, Pérez en défense. Camara, Gay, Gerson, Gendouzi au milieu. Dieng, Milik devant. Là aussi, tout ça est peut-être faux. 6 tirs pour Galatasaray, 14 tirs pour l'Olympique de Marseille, mais 4 buts à 2 et un match qui ne vous a pas emballé côté marseillais, visiblement, à vous lire, messieurs. Est-ce que, Christophe, dans tout ce que j'ai dit, il y a des infos à reprendre, à corriger ?
Alors, c'est pas corrigé, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que parfois, j'ai du mal à comprendre pourquoi certains sites présentent des 4-5-1 pour des 4-3-3 ou inversement. Tu vois, j'y pensais notamment sur... Alors c'est un tropisme parce que j'ai écrit là-dessus récemment, mais le Watford, Manchester United, où Watford est présenté en 4-5-1 avec je ne sais plus qui étaient les deux joueurs de couloir, mais qui sont des purs ailiers, et au final tu dis 4-5-1 ça va être défensif, et au final ça pressait comme des barbares parce que Manchester United ne savait pas du tout relancer. Et donc là, Je pense que c'est plus cohérent de parler de 4-3-3 et de vraiment mettre Feghouli et Aktürkoğlu, si je le prononce bien, mais surtout Feghouli très haut sur le terrain, parce que vraiment, il faut partir du principe que c'est la ligne offensive de 3 qui a fait mal, et surtout les deux joueurs de couloir, et surtout Feghouli côté droit. Mais alors évidemment, parce que le joueur est extrêmement doué, ça, il n'y a pas forcément de doute sur ses qualités individuelles, c'est plus une question de régularité, notamment...
Mais... Je sais pas ce qu'on pense toi, mais pour moi 4-5-1 et 4-3-3 c'est la même chose, c'est juste 4-3-3 c'est ce qu'on dit quand l'équipe a le ballon généralement, et 4-5-1 c'est comment tu te replaces sans quoi.
Après enfin, ça peut dépendre de la hauteur du bloc aussi.
Oui ouais, c'est ça, non, en gros 4-5-1 ça sous-entend que tes ailiers ont défendu assez bas tu ouais. vois. Alors, suis d'accord que c'est la même chose hein, globalement.
Pour le coup je lis très rarement 4-5-1 maintenant, c'est toujours 4-1-4-1 ou 4-3-3 tu vois.
Pour oui
moi,
aussi.
Ça n'a aucun sens de différencier les deux, à part vraiment les rares équipes qui défendent en 4-3-3 genre Liverpool bloc haut tu vois, où les mecs sont très hauts les deux ailiers mais... Enfin bref, continue.
Oui, après c'est toujours pareil, hein. C'est toujours les modulations. Oui. Typiquement, genre le losange de Salzbourg, là il y avait vraiment losange parce que à la fin, Camara relançait entre les deux centraux, il était limite plus reculé que les deux défenseurs centraux qui collaient la ligne de touche. Donc bon, entre les sentinelles, etc., les attitudes, c'est toujours un peu différent. Et c'est aussi valable côté marseillais, hein, parce que le système et la façon dont il est animé, les déplacements, etc., c'est toujours un petit peu rigolo. Mais non, pour le premier point d'entrée, avant de redonner la parole à Florent, mais je pense que c'est le vrai point d'intérêt de ce match-là, c'est le déséquilibre structurel. Alors on avait parlé dans l'épisode d'hier du fait que Mahrez était toujours libre. Là, il y avait un énorme problème sur cette zone Feghouli. Feghouli, donc comme je le disais, hyper doué. S'il est en Turquie, c'est sans doute plus une question de régularité et de niveau plancher que de niveau plafond, parce qu'on sait qu'il peut... Alors même si à Galatasaray, c'est pas indigne du tout, hein. Mais
contre,
on sait qu'il peut, il peut monter très haut.
Juste sur lui, je te laisse poursuivre. Je pense qu'il est prêt pour la CAN, parce que là, il est dans une période où il est quand même très fit. Enfin, je l'ai trouvé très très fit sur tout le match, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ouais. Notamment quand tu voyais Galatasaray sur les saisons précédentes en Ligue des Champions, quand ils avaient croisé Paris. C'était pas le même joueur. Là d'ici un mois, je pense qu'il sera tout à fait prêt pour la CAN. Ouais.
C'est ça. Et donc Feghouli est son numéro 89, puisqu'il est né en 1989, qui était zone un peu particulière. Flo, je vais te redonner la parole tout de suite. Parce que face à Pape Gueye et Luan Perez, qui ne sont pas forcément censés défendre un couloir, et c'était un petit peu compliqué, les 1 contre 1, soit ça recentrait, soit il était en 1 contre 1 et il passait, soit il était complètement tout seul. Mais bon, il n'y a évidemment pas que ça, il y avait des bons appels autour. Mais on peut se poser la question de la non-résolution du problème à partir du moment où... t'as les mêmes choses à la 75e que t'avais à la 5e minute en fait.
Vas-y.
Non mais c'est vrai, oui, il y avait ce problème-là, c'est-à-dire que Marseille a essayé parfois d'aller presser un petit peu timidement, mais c'est vrai que généralement, Galatasaray... Le truc c'est que quand Marseille a essayé vraiment de sortir pressé, il y avait long ballon Moussira, tête de Diagne, il y avait quasiment une occasion, c'est ce qui se passe en deuxième mi-temps un petit peu. Et c'est vrai que sur cette première mi-temps, la relative passivité du 4-4-2 ou leur difficulté pour presser... faisait que bah, côté Galatasaray, on jouait très très bien les coups, c'est-à-dire on ressortait d'un côté, puis on renversait de l'autre, et on renversait souvent de la gauche vers la droite, pour trouver Feghouli, pour trouver aussi Yedlin, comme je le disais tout à l'heure, qui pouvait dédoubler et participer offensivement, et qui lui aussi a profité à plein des espaces sur les côtés. Mais bon voilà, comme le dit Christophe, quand tu mets un couloir gauche, Luan Perez Gueye, déjà... offensivement, c'est compliqué. Et encore, le pire, c'est que ça a été presque le côté fort de l'OM sur le début de match avec les montées de Luan Perez. Mais défensivement, ouais, c'était pas possible. Et dans les duels avec Feghouli, dans les 1 contre 1, bah, Feghouli s'est quand même baladé la plupart du temps. Et l'action qui symbolise ça, je crois que c'est le deuxième but du coup de Galatasaray, où c'est sur une remise en jeu et où tu as Gueye qui laisse. C'est le deuxième ou le troisième? Le deuxième, je crois.
C'est le deuxième, ouais, t'en as fait un screenshot avec le CSC de Caleta-Char.
Le CSC de Caleta-Char, en effet, qui part d'une action où t'as une remise en jeu, t'as Gueye qui laisse totalement filer le futur passeur décisif. Alors, pas passeur décisif parce que c'est un CSC, mais le dernier joueur de Galatasaray a touché le ballon. Et cette action-là, elle est assez, assez difficile pour lui et pour Luan Perez, qui dort un petit peu côté et qui est trop loin pour fermer l'intervalle lorsque Gueye laisse partir son joueur.
Et difficile pour le profil aussi, parce que si Pape Gueye, qui est plutôt défensif qu'offensif, ne fait pas ses efforts défensifs.
Ouais.
Tu vois, c'est, en gros, sur ton tweet, tu faisais la comparaison avec Imbula, qui était, c'était parfois le stéréotype, bon, je suis bon avec le ballon, mais quand je l'ai pas, je dors un peu. Si Gay dort, déconnecte, quand Marseille n'a pas le ballon, je vais pas dire qu'est-ce qui reste, parce que ça serait un peu dur, mais il va pas compenser par une créativité surdimensionnée de l'autre côté du terrain, donc c'est clair que sa titularisation se légitime beaucoup moins.
Pour paraphraser notre ami et collaborateur Edu, Christophe, est-ce que le problème de cet Olympique de Marseille, c'est pas qu'il manquait un joueur de plus à vocation défensive pour aider Luan Pérez?
En fait, le souci... Parce...
Après je te laisse, parce que dans l'épisode fantôme qu'on devait faire sur l'Olympique de Marseille de Sampaoli avec Edu et Elton, et il date, hein, maintenant il a un mois je crois.
Oui, en gros vous l'avez enregistré, mais il y a eu des soucis et ouais. Voilà, l'épisode est disparu dans le vortex.
On adore Elton, mais sa connexion est maudite. Et on disait que Sampaoli, malgré au moment où l'OM était encore bien classé, enchaîné des résultats pas trop mal, que c'était quand même très très prudent quoi, comme style de jeu. C'était plutôt le mauvais Séville que le meilleur Séville de Sampaoli, après des premières semaines un peu fantastiques et qui avaient laissé fantasmer une grande saison. Et là, on est totalement dans le Sampa négatif.
Bah, c'est ça, faisons un petit tour d'horizon. Paul Lirola, lui, est un défenseur, tu peux le faire jouer à 4, mais c'est plutôt un défenseur offensif. Ça reste un profil de piston qui n'a a priori pas vocation à être ailier, mais qui peut apporter offensivement. Par contre, Saliba, Caleta, Char, Luan Pérez, pur défenseur, voilà, qui ne va pas forcément se projeter, même si voilà, Saliba va attaquer l'espace, voilà, mais ça reste genre un défenseur central qui est un peu proactif, mais ça reste un central. Camara, un cran plus haut, qui est d'ailleurs 4, catastrophique, j'exagère peut-être un peu, mais qui fait une très mauvaise première période et qui est coupable sur le premier but encaissé, a une formation, voilà, a toujours ce truc défenseur, milieu défensif, là il est fixé depuis un moment un cran plus haut, mais ça reste un joueur pas ultra créatif. Gay est plutôt un milieu à vocation défensive. Guendouzi est quelque part entre les deux, Gerson pareil, mais Gerson serait plus devant la défense à créer, évolue un cran plus haut. Et ensuite, tu arrives tout de suite sur les deux attaquants, Bamba Dieng qui fait appel sur appel sur appel sur appel, et Milik qui ne fait pas d'appel, qui reste là dans la zone. Mais globalement, ok, un Gerson, un Guendouzi peuvent, par certains moments, ou Lirola, se projeter, voilà, attaquer l'espace, des choses comme ça. Mais vraiment, si on est sur qu'est-ce que tu peux proposer à un adversaire regroupé sur la créativité, c'est-à-dire si tu n'es pas juste sur le dépassement de fonction, bah, c'est difficile, et pour moi c'est l'un des soucis, c'est-à-dire que du coup, puisque tu n'auras pas forcément des joueurs qui vont casser les lignes, qui vont inventer, qui vont même dribbler, parce que là tu n'as pas de dribbleur dans cette équipe, hein, tu n'as pas les Wunder, les De La Fuente, alors pour diverses raisons, hein, De La Fuente est sur le banc, il rentre à l'heure de jeu alors que Wunder est blessé, enfin là il est sur le banc mais il n'était pas forcément fit pour jouer, mais quand tu as ce profil d'équipe-là, du coup tes différences se font par le fameux dépassement de fonction, le latéral qui va se retrouver à moitié ailier, le milieu défensif qui va se retrouver offensif, mais du coup qui dit dépassement de fonction d'un peu près tout le monde, dit t'as 7 joueurs devant le ballon quoi, en tout cas il y a beaucoup de joueurs en zone offensive, et du coup bah, en deux passes tu peux manger une transition de l'espace, et c'est pas uniquement ça l'histoire du match pour reprendre la formule, parce que même sur des longs ballons tu pouvais te faire avoir. Mais c'est clair que c'est un vrai souci. Et à partir du moment où tu ne presses quasiment plus, ou alors tu presses mal, tu peux même pas récupérer des ballons en zone dangereuse sans avoir besoin de construire, en fait. Alors que quand le Marseille de Sampaoli pressait bien, à la limite, c'était pas très grave si t'arrivais pas à naviguer, on va dire, du milieu de terrain jusqu'à l'entrée des 30 mètres adverses, si tu pouvais récupérer la balle directement dans les 30 mètres adverses, dans tous les cas, tu y étais. Là, c'est même pas le cas. Donc, du coup, t'es obligé de passer uniquement par la phase avec ballon pour approcher du but adverse, et cette phase-là avec ballon, bah, là honnêtement, sur ce match, à part les passes en profondeur pour Bamba Dieng, qui je pense est un joueur de très très haut niveau pour les appels de balles, beaucoup plus limité pour le reste, alors cette équipe a besoin d'appels de balles, donc du coup tu le vois beaucoup et tu te dis il est hyper important, mais vu qu'il a tendance à gâcher ce qu'il crée, c'est vrai que ça te fait plus de regrets qu'autre chose, mais au moins il se passe un truc. Mais c'est vrai que cette équipe est quand même assez frustrante, et que tu te dis, si c'est pour faire ça, t'as pas forcément besoin de Sampaoli, en fait. Il y a pas mal d'entraîneurs qui te mettraient autant de joueurs à vocation défensive et qui auraient les mêmes problèmes sur la construction, parce que là il n'y a pas de patte particulière Sampaoli sur un match comme celui-là.
Alors, c'est pas pour lui tomber dessus, mais moi je me... parce que c'est, pour moi dans ma tête c'est l'exemple type de la composition d'équipe défensive avec quasiment que des défenseurs. C'était un 4-5-1 de Philippe Montagnier avec Pedro Henrique en pointe.
Et Mehdi Zéphane dans le couloir.
C'était ça, et je crois qu'ils avaient gagné à Lyon.
Oui, ils étaient allés gagner à Lyon.
Ils gagnaient à Lyon, comme ça.
De Zéphane, l'ancien Lyonnais. Ouais.
Mais en fait, tu vois la compo de Sampaoli ce soir. Bon, il y a Bamba Milik. Mais c'est vrai que derrière Bamba Milik, tu te dis, bon. Donc, ça aurait pu être fait par Philippe Montagné.
C'est pas la première fois. Hein. Déjà, les compos précédentes, là, ces dernières semaines, étaient pas forcément plus offensives. Hein. Tu remplaçais Dieng par un autre joueur et c'était pareil.
Ouais, et ce qui est terrible, c'est que. Enfin, terrible, façon de parler. Christophe parlait tout à l'heure de Gerson et Guendouzi qui pourraient évoluer un cran plus bas. Et c'est vrai que t'as presque envie de te demander, quitte à mettre un 4-4-2 qui te fait sortir. De la structure que tu avais construite depuis le début, parce que là, sur ce match-là, on n'a pas retrouvé la même structure habituelle de l'OM, parce qu'il y avait deux attaquants, par exemple, deux attaquants de pointe ensemble, alignés. Donc il a tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Mais quitte à faire ça, pourquoi Gaï à gauche? Pourquoi pas De La Fuente dès le début? Enfin, voilà, il y a des joueurs quand même pas forcément à leur place, et pourquoi on n'a pas encore vu, par exemple, Gerson et Guendouzi dans un double pivot, quitte à bazarder le match, autant le bazarder en se mettant en capacité de créer des choses. Mais là, c'est vrai que c'était très très pauvre. En tout cas, en première mi-temps. En deuxième, ça s'est un petit peu animé. Mais je pense que ça s'est aussi animé avec la fin de partie, le penalty qui les relance. C'est-à-dire que je sais pas. À combien de XG est l'OM au moment où Galatasaray mène 2-0 ou 3-0 même. Mais la majorité, c'est après le 3-0, quoi. C'est dans les 20 dernières minutes que l'OM se l'écrit, je pense.
Je vous suis parce que je n'ai pas vu le match. Mais je vous redonne la compo de Marseille contre le Lyon, le match qui ne s'est donc pas disputé, pour montrer que c'était pas forcément beaucoup plus offensif, puisque c'était donc la même défense centrale. Au milieu de terrain, il y avait Rongier qui était là à la place de Gerson. C'était Camara, Guendouzi, Rongier. Payet était en 10 derrière Milik. Et à droite, c'était Djalirola. Et à gauche, c'était De La Fuente. Qui peut être un peu plus offensif que Lirola, mais qui peut jouer piston aussi.
Et là, pour le coup, il y avait la structure qu'on a vue depuis le début de saison. Avec Lirola qui occupait une aile, De La Fuente de l'autre côté. Milik dans l'axe. Payet à l'intérieur. Guendouzi intérieur. Et Camara, Rongier dans le.
Ouais, mais t'as deux attaquants et demi, en fait, dans ta compo.
Enfin, oui, oui, deux, oui. Non, mais... tu vois. Ça, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que sur le match d'aujourd'hui, t'as même pas la structure qu'il a construite depuis le début, en fait.
Oui, non, mais en plus, t'as même pas De La Fuente et tu remplaces Payet par Dieng. Donc, tu perds un joueur offensif parce que c'est Gay qui rentre côté gauche.
Non, mais c'est-à-dire qu'il s'est dit, à partir du moment où je mets deux attaquants, il faut que je blinde le reste, quoi.
Ce qui n'a aucun sens vraiment. Parce que, connaissant Sampaoli, historiquement, c'est pas du tout cette réflexion-là qui l'anime. Donc j'avoue ne pas comprendre, et encore une fois je suis assez client du coach, c'est pour ça, tu vois, ce serait Pascal Dupraz, je dirais oui, bon, voilà, c'est plutôt dans la logique de ce qu'il va faire et en gros se rassurer par cette façon de faire là. Sampaoli n'a pas forcément toujours eu besoin de se rassurer, alors même si avec l'Argentine il y a eu des choses un petit peu particulières, mais il a eu tendance plutôt à mourir avec ses idées, je veux dire, vas-y, on va relancer jusqu'au bout avec Mascherano, même si ça va plus du tout, et on va continuer à l'aligner. Donc cet aspect-là où on essaye de s'adapter mais en bétonnant, alors que je dis pas qu'on a forcément raison, mais en tout cas le diagnostic qu'on pose depuis plusieurs semaines, bientôt mois, avec un article qui avait été fait, je crois, par Ben sur le Coparena, sur le pressing, etc., globalement tout irait dans une résolution par justement plus d'offensive, en tout cas une volonté de monter le bloc, etc. Pour l'instant, encore une fois, je dis pas qu'on a raison, mais pour l'instant il fait l'inverse et c'est de pire en pire, à mon sens. En tout cas, ça s'améliore pas du tout, donc je vois pas. J'entends la valeur refuge, un peu mettre plus de défenseurs pour se rassurer, sauf que c'est complètement con, en tout cas sur le principe. C'est comme dire, un faux neuf, on préfère les vrais attaquants. Je veux dire, les équipes qui mettent des faux neufs, c'est City, Chelsea qui mettent des danses à tout le monde, et là t'as mis plein de défenseurs, t'en as pris 4 face à Galatasaray. Je veux dire, y a pas forcément logique, donc je vois pas ce côté voilà, le côté qu'est-ce que tu peux gagner finalement. Tu perds en habitude de jeu en jouant comme ça. Et en plus, ça ne t'apporte même pas ce que c'est censé visiblement apporter, j'imagine, sur oui, mais au moins on a une base plus solide. Après, oui, Mousselera a le record d'arrêt sur un match cette année en Ligue Europa, mais bon, je veux dire.
Il n'y a pas d'exploit.
Non, il y a 2-3 beaux arrêts, mais il n'y a pas d'exploit. Son plus bel exploit, c'est d'être allé engueuler les supporters turcs qui faisaient n'importe quoi, avec une prestation quand même assez charismatique.
Et c'est l'anticipation sur Bamba Dieng quand il va gratter le ballon dans les pieds du 6, où là il sort très très vite et il ne laisse pas le temps de réfléchir à comment finir l'action sur un ballon perdu par le 6 de Galatasaray dans son camp. Mais par contre, je vois sur le banc, je me disais, tu disais que Under était blessé, alors je ne sais pas, je le vois sur les bancs.
C'est bizarre. S'il est malade ou autre, mais.
Mais par contre, il y a deux autres joueurs, il y a au-delà de De La Fuente, il y a Amin Harit qui était sur le banc, a priori. Et Luis Enrique. Pourquoi ces joueurs-là, tu les vois pas sur un match pareil?
C'est vrai qu'Amin Harit dans le milieu, ça mettrait un peu de créativité et de percussion.
À la place de Pape Gueye à gauche, ça me paraît plus pertinent, quoi. Alors, il aurait peut-être pris des danses aussi, les mêmes danses que Fégouli, face à Fégouli, pardon. Mais par contre, de l'autre côté du terrain, ça aurait pas été la même chose, quoi. Tu aurais eu quelque chose sans doute supplémentaire pour essayer d'accompagner Dieng et Milik. Mais bon, ça reste. Après, bon, on est peut-être aussi sur des calculs et sur le fait que cette coupe, on va pas la jouer à fond et on économise des gars pour se remettre sur le championnat. Mais c'est pas très sympa au lien dans l'esprit, ça non plus.
Ouais, et puis qu'est-ce que t'as appris en fait sur ce match-là? Tu vois, limite, tu peux faire un test, mais tu vois, typiquement, Gerson, j'ai pas l'info moi-même, mais tout filtre sur le côté. Il est mécontent parce qu'il est venu et en fait, il joue pas à son poste alors que Sampaoli le voulait absolument. Du coup, tu dis, en fait, pourquoi tu m'as pris si c'est pour faire ça? Du coup, sur ce match-là, tu peux même pas dire, on balance, mais au moins, on va faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que, du coup, là, tu perds encore un peu plus Gerson sur l'investissement qu'il peut avoir. Je veux dire, tu vois, c'est. Ok, tu testes un nouveau système, mais en gros, même si ça fonctionne, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver, Pape Gueye, en fait, peut être un bon joueur pour bloquer le couloir gauche. Ça tiendra 2 semaines, et puis ensuite, ça explosera la première fois qu'il tombera face à un adversaire qui sait l'attaquer. Donc, je vois même si ça avait fonctionné. Quelles sont les leçons que tu pourrais tirer de ce match-là? J'avoue que j'ai du mal, tu vois. Alors que si tu pars, je dis n'importe quoi, mais tu pars comme Lille à un moment, Galtier était sorti de son 4-4-2 pour passer à 3 derrière et presser comme un barbare. Bon, ça avait marché 2 matchs, ensuite les 2 suivants, ça n'avait pas marché, il était repassé au 4-4-2. Mais au moins, tu voyais la logique, limite bousculer les choses. Là, qu'est-ce que tu bouscules, même sur la philosophie générale depuis... Alors, quel système? Mais sur les hauteurs de bloc, sur les façons de sortir le ballon. C'est pas beaucoup de choses, même si ça avait fonctionné à mon sens, qui aurait pu être source d'enseignement pour la suite. Et puis quand même dire que les individualités en Ligue Europa sont quand même pas forcément au niveau. Alors je me souviens que sur le premier match, Marseille doit gagner, ne gagne pas, et dans ce podcast je dis bon, pas grave, de toute façon ils sont tellement en confiance qu'ils vont passer premier de poule, c'est juste un petit rappel à l'ordre. Bon, finalement, prédiction absolument catastrophique de ma part que je souligne pour bien montrer que le vent tourne et que je me souviens des bêtises que j'ai pu dire, mais dire quand même un petit mot, Saliba par exemple sur cette phase de poule, c'est extrêmement compliqué, et ça fait partie des joueurs aussi qui, s'ils étaient au même niveau en novembre, qu'il était en août ou en septembre, peut-être que Marseille serait deuxième, voire premier. En tout cas, tu n'aurais pas forcément la même lecture des choses si des individualités aussi arrivaient à hausser le niveau de jeu au-delà du plan général tactique du coach.
Les Especial Goals, messieurs, Marseille finit à 2,22 et Galatasaray à 1,92.
Ouais. Il y a le pénalty.
Donc il y a ce 2,22, mais en 14 tirs pour Marseille.
Avec le pénalty aussi.
Avec le penalty et 1,96 pour Gala, mais avec seulement 6 tirs. 1,92 pardon pour Gala, mais avec seulement 6 tirs. Donc il vaut parfois mieux avoir moins de tirs, mais de grande qualité, que beaucoup de tirs de faible qualité. Et on avait déjà vu ça lors d'un match récemment, je ne sais plus lequel. On avait analysé. Peut-être Lille, ça se voit, je ne sais plus. Mais il vaut mieux avoir 3 occasions à 0,4 XG que 10 à 0,1.
Et puis ouais, les occasions de Galatasaray, la meilleure, c'est quand même celle de Babel à la fin, où il rentre en jeu, il touche son premier ballon, le coup franc est... Enfin non, il rentre en jeu, le coup franc est joué, il prend la profondeur, but.
Okay, en termes de grosses occasions, il y a 4 partout, sur les grosses occasions.
Mais eux, ils ont mis les 4, quoi. Je pense, quasi, parce qu'il y a, le CSC, c'est laquelle qui rate alors Galatasaray? J'arrive pas à la remettre.
C'est un poteau de Diagne à la 11e.
Ah oui. Mais par contre, tu vois, Diagne, il y en a une autre qui rate complètement, alors que ça doit faire but sur une relance ratée, qui récupère et où il... Je sais pas trop ce qu'il essaye de faire, mais...
Ouais, c'est ridicule, et il s'est sauvé sur la ligne.
Il tombe à moitié, je sais plus qui la sauve sur la ligne, sur un dégagement, une relance ratée. Mais oui, ça aurait pu être plus lourd aussi pour Marseille dans la fin de match.
Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce match et le tour de la phase de poule de Marseille. Qui jouera sa qualification en Ligue Europa Conférence lors du dernier match contre le Lokomotiv Moscou?
Lokomotiv qui a perdu Rangnick, du coup. Ou a priori, qui est sur le point de le perdre. Parce que c'est pas tout à fait fait. Je crois qu'ils doivent se mettre d'accord avec Moscou. Mais qui doit rejoindre United.
Et qui a perdu 3-0 contre la Lazio.
Je sais pas si vous avez vu, il doit rejoindre United 6 mois en tant qu'intérimaire, mais 2 ans...
En tant que consultant,
oui, derrière.
En gros, Ten Hag ou autre.
Ouais, peuvent suivre derrière quoi.
En gros, lui met le truc en place et puis derrière, quelqu'un prend une machine fonctionnelle plutôt que dysfonctionnelle. Honnêtement, je trouve ça. Je suis pas fan de Manchester, mais je trouve ça très intelligent s'ils arrivent à faire ça.
Après, Rooney, parfois il arrive et puis il est parti 3 semaines après. Hein, donc, faut.
Oui, bah, la preuve avec voilà.
Le Lokomotiv.
Lokomotiv, pardon.
Et Milan aussi, où on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Alors, c'est aussi parce que Pioli gagne tous les matchs à un moment.
Oui, là, j'ai l'impression que c'est moins de son fait. Mais effectivement, il y a un petit côté Mario Jardel chez lui.
Mon accord, Real Sociedad, c'est le dernier match qu'on va évoquer. On va tenter d'analyser oui, rapidement. Victoire 2-1 des Monégasques. Je crois que d'ailleurs, ça s'est allé à l'encontre d'un de tes paris, Flo.
Oui, mais c'était le pari où qu'il n'y aurait pas de but en première mi-temps. Malheureusement, ça s'est débloqué un peu trop vite.
Ouais, à la 28e minute, avec un but de Kevin Folland, Alexander Isak, aussi appelé Xander par Flo, égalise à la 35e sur une passe d'Adnan Januzaj, et Youssouf Fofana à la 37e marque sur une situation de coup de pied arrêté, il me semble, si je me souviens bien.
Absolument.
Oui. Remise de Badiachil et il met une tête dans les 6 mètres.
Une tête et ils prendront un carton rouge à la 89e minute. Les compositions de côté de Monaco, Nubel dans les buts, une défense à 4, Sidibé, Marie, Panbadiachil, Caio, Henrique, comme il a été appelé, c'est vrai qu'il est brésilien donc on ne peut pas mettre l'accent. Au milieu de terrain, Jean Lucas, un autre brésilien avec Fofana, une ligne de 3, Folland, Golovin, Diop, Golovin à droite, Diop à gauche, Folland dans l'axe derrière. Wissam Ben Yedder, du côté de la Real Sociedad, Matt Ryan dans les buts, l'Australien, une défense à 4, Zaldua, Elustondo, Le Normand et Munoz, un milieu à 3, Zubimendi, Merino et David Silva, et une attaque Januzaj, Isak et Oyarzabal. Donc une compo plutôt pas mal, même si la Real Sociedad ils changent 3-4 joueurs, j'ai l'impression, tous les week-ends, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs du même niveau.
Il en manquait encore quelques-uns aussi. Déjà, il n'y avait pas le gardien titulaire. Et Nacho Monreal aussi, toujours blessé. Est toujours absent.
Ouais, après, tu vois, ils ont des joueurs qui sortent et rentrent dans l'équipe sans vraiment de raison, genre Gorosabel, Barrenechea, Porto.
Oui, il y a des bons petits joueurs.
Guevara qui est pas mauvais aussi, tu vois. C'est un effectif assez homogène, à l'exception de quelques attaquants comme Alexander Isak qui a encore fait un bon match. Alors, ça finit à 40% de possession pour l'Real Sociedad, mais c'est aussi parce que Monaco a souvent mené dans ce match, et longtemps, puisque entre la 37e et la fin du match, il n'y a plus eu de but. Par qui je commence? Par Christophe, tiens. Puisqu'il regarde plus souvent la Real Sociedad que nous. Est-ce que tu n'es pas un peu déçu par cette phase de poule des Basques, qui sont plutôt bien en championnat, même très bien, parce qu'ils jouent le top 4, et là, en Ligue Europa, ils vont jouer leur qualif. Lors du dernier match contre le PSV, il faudra l'emporter à domicile pour faire deuxième.
J'ai l'impression que ta question, c'est est-ce que tu n'es pas déçu que toute ta famille soit morte dans un accident d'avion? Effectivement, oui, je suis déçu par la phase de poule de la Real Sociedad à partir du moment, alors même si la vérité du championnat, voilà, tu peux pas toujours dire Monaco est, je sais plus, 11e du championnat, quelque chose comme ça, et donc quand t'es 3e, 2e, 1er selon les semaines de Ligue 1, tu dois les battre, parce que ça serait aussi valable pour les adversaires de Lille, et pareil, en gros t'as à peu près la même dynamique pour Séville-Lille.
Mais... Je parle aussi de jeu, Christophe.
Oui, non, bien sûr.
Pas forcément le jeu de la Real en Ligue Europa.
Non, mais je bien sûr. Mais d'abord, on est obligé quand même de parler de points dans la mesure où Monaco est qualifié. C'est quand même la grosse nouvelle pour eux après ce match-là. Alors que
pour les huitièmes, qualifié directement pour les huitièmes.
Oui, c'est ça. Qualifié, en fait. Dans ma tête, c'est plus une histoire de barrage quand t'es deuxième. Mais bon, effectivement, qualifié pour les huitièmes, alors que la Real Sociedad est pour l'instant troisième. Et que... dans la logique, alors même si le PSV est une bonne équipe et qu'une victoire à domicile face au PSV sur le dernier match t'offrirait la qualif, avoir une victoire en 5 matchs dans cette poule alors que t'as joué deux fois Sturm Graz notamment, c'est problématique, sachant que le match aller malgré tout de la Real face à Monaco était quand même de qualité. Il y avait surtout un problème de finition et de réalisme de l'adversaire, mais c'est vrai qu'au-delà de au-delà du résultat, qui est quand même quelque chose d'important, encore une fois, parce que cette journée pouvait te faire basculer d'un côté ou de l'autre. Côté espagnol, c'est vrai que dans le jeu, Genre sur ce match-là, David Silva joue. Alors encore une fois, David Silva 2021, c'est pas David Silva 2014. Qu'est-ce qui t'a vraiment apporté? Pas énormément. Oyarzabal s'est fait rattraper en vitesse par Maripane et rattrapé en vitesse, mais en pure vitesse, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur une conduite de balle, ils sont vraiment au coude à coude pour être le premier sur un ballon en profondeur et il est devancé, pas de beaucoup.
Il part devant en plus.
Oui, non, il part devant. Il est devant,
il est en avant. Est-ce que Maripane est un faux lent ou pas?
Ou est-ce que Oyarzabal est un faux rapide?
Mais... je sais pas, je vous pose la question.
Non, mais en tout, non, mais clairement, il est pas lent quand tu vois ça. Après, est-ce qu'il est rapide ou pas? Tu sais, c'est comme Khaletachar qui avait gagné les tests de vitesse à Marseille. Je dis, bah, c'est bizarre, en fait, il est sur un terrain, c'est pas le mec le plus rapide, donc je sais pas trop. Je pense quand même qu'il est Folland sur le côté, et non pas Folland.
J'étais sûr que t'allais la faire.
Sur le côté, effectivement, il a l'air un peu massif, et je sais pas, il a pas une tête à être rapide, je trouve. Puis de manière générale, les défenseurs centraux... Les défenseurs centraux sud-américains, je n'ai rien entendu, sont pas généralement ultra rapides, même les Chiliens, voilà, même quand ils sont pas très grands, les Medel voilà. Et tout, c'est pas tous des sprinteurs. Non, mais voilà, tout ça pour dire que je veux dire, à part Ishak, qui fait des différences par le dribble, qui marque son but sur un bel appel, enfin vraiment, tu sens que le gars a toute la panoplie, même s'il écrase pas non plus le match de son talent. Le reste. Alors que pourtant, ça fait sens hein, sur le papier. C'est-à-dire que Merino est censé sortir des ballons, Zubimendi contrôler un petit peu en pointe basse, Silva créer, Yanouzaï percuter, voilà, jouer ses 1 contre 1, Oyarzabal prendre la profondeur, Ishak un peu tout faire. Je veux dire, dans l'absolu, voilà, un ailier qui prend la profondeur, l'autre qui prend le ballon dans les pieds, l'attaquant qui participe un peu au jeu, mais qui peut aussi aller conclure. Enfin, c'est cohérent. Maintenant, sur la création, il n'y a pas grand-chose. Et la défense centrale, Robin Lenormand a été meilleur joueur de Ligue 1 le mois dernier. J'ai pas spécialement vu la Real Sociedad le mois dernier. J'imagine que les gens qui lui ont mis le trophée l'ont plus souvent vu et qu'il y a un côté mérité. Maintenant, il y a un seuil de compétence assez régulier en Ligue Europa qui est embêtant, pas que pour lui, hein, sur toute l'arrière-garde de la Real. Je me souviens du match l'an dernier quand ils sortent, je crois qu'ils en prennent 5 ou 6, il me semble que c'est contre Manchester, où vraiment ils n'existent plus du tout. Et où tu sens que en fait ils font le bras de fer, mais 5 occasions de chaque côté, sauf qu'ils vont marquer 0 but et en face ça va en mettre 4. Et le but de Fofana est quand même assez symbolique de ça. Je crois que c'est Lustondo qui se fait un peu dunker dessus. Vraiment, c'est une balle aérienne, c'est 1 contre 1, allez-y sur le jump. Et Fofana est 15 cm au-dessus de tout le monde. Et c'est vrai que la défense de la surface, au-delà du manque de création après, qui m'embête, elle est
après,
pas bonne.
Après, Monaco est quand même assez fort sur le coup de pied arrêté. Entre les tireurs et les gabarits qu'ils envoient dans la surface, ils sont souvent emmerdants.
Parce oui, que oui non, mais évidemment, ils n'ont pas perdu un duel aérien contre toi, mais tu peux aussi le gagner. Enfin, je veux dire.
Enfin, je te rappelle qu'un jour, j'ai dunké sur toi et que le terrain de basket de Boissy Saint-Léger s'en souvient encore, hein, Christophe. Donc,
des gens sont. C'est-à-dire que. Alors, j'ai rien contre le fait que tu réécrives l'histoire. Mais si, du haut de ton 1m70, tu crois avoir un jour dunké, ne serait-ce qu'approcher l'arceau...
Non, je t'ai bâché.
Mais redonnons la parole à Florent, que tu racontes des exploits de basket alors que t'as touché 3 fois une balle dans ta vie et moi 2.
Non, mais je suis un peu perturbé. Je cherchais un petit qui avait bâché un grand, mais je n'ai pas de référence.
Nate Robinson a contré plusieurs personnes, dont Yao Ming.
Je suis un peu le Nate Robinson de ta vie. Nate Robinson qui était fun, qui était peut-être quand même plus grand que moi, hein, faut préciser. Je pense quand même que je ne suis même
oui,
pas.
Oui, toi, t'es Muggsy Bogues.
Ouais. Il faisait quelle taille, Muggsy Bogues?
63.
Ouais, je suis quand même plus grand que lui, putain, c'est incroyable, ma dernière 63. Ouais. Bravo à lui. Florent, revenons sur le football et sur Monaco Real Sociedad. Qu'est-ce que. Golovin, est-ce qu'on parle de Golovin? Le joueur qui devrait avoir 2 fois cette carrière et qui jouait 1 match sur 2, 1 match sur 3.
Non, je vais pas parler de Golovin, je vais parler de la première mi-temps de Monaco où, en gros, comme le disait Christophe, il y avait quand même une certaine différence de classe entre les lignes offensives et les lignes défensives. C'est-à-dire, je trouvais que l'attaque de Monaco avait rapidement l'avantage sur la défense de la Real Sociedad. Et en face, tu sentais que Ishak ou Januzaj, moins Oyarzabal, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, mais ces deux-là aussi pouvaient faire mal. La différence, c'est que Monaco a eu beaucoup plus de moments où ils ont réussi à toucher leurs attaquants que la Real sur la première mi-temps, notamment grâce au bon pressing de Monaco.
Ils ont récupéré des ballons hauts, ouais.
Ouais, sur les 45-60 premières minutes à peu près. Ça a été un peu plus dur en deuxième mi-temps, parce qu'il y avait notamment un Barrenechea qui apportait un peu plus de peps dans cette zone et qui a cassé quelques lignes, qui a fait quelques percussions intéressantes. Mais ouais, l'avantage, de toute façon, l'avantage Monaco l'a pris en première mi-temps. Et je pense que ça s'est joué en grande partie là-dessus. Cette capacité à gratter des ballons hauts et à faire en sorte que, notamment, des joueurs comme Merino ou comme Silva n'existent quasiment pas. C'est-à-dire que Silva, on l'a pas vu. Et ce qui me fait très mal, ça me fait très mal de le dire, mais sur ce match-là, il était vraiment absent. Mais parce que la Real était forcée de jouer plus direct. Et Merino, on l'a vu, mais pas du bon côté. C'est-à-dire qu'il s'est fait presser tout le match et il a perdu un grand nombre de ballons. Je crois même que c'est lui qui perd le ballon sur l'action qui mène jusqu'au premier but. Belle action entre Golovin, Ben Yedder et Folland, je crois. Que ce sont les trois qui touchent la balle, s'il n'y a pas Diop qui intervient à un moment donné au milieu. Donc, voilà, une belle victoire, une belle première mi-temps de Monaco. La deuxième, ça a été plus dur et ils s'en sortent un petit peu au forceps, quoi. C'est moins fluide, c'est moins bon, j'ai trouvé, en deuxième mi-temps. D'ailleurs, les XG sont là. Monaco se crée 2,15 XG en première mi-temps, 0,19 en deuxième. Donc là, par contre, on garde aussi un truc qui tient depuis pas mal de temps à Monaco. C'est que le jour où cette équipe n'arrive plus à presser et doit se contenter de transition, elle va avoir beaucoup de mal à créer le danger. Et ça, c'est aussi dû au profil de ces attaquants, où tu as un manque de vitesse, même s'il y a eu l'entrée de Boadou à la fin de match, qui a d'ailleurs une occasion, il me semble, en fin de partie. Mais là-dessus, c'est encore un point d'amélioration qui peut être important pour l'ASM dans sa marge de progression. Mais sinon, ouais, première mi-temps, rien à dire. Deuxième mi-temps, bon, c'était... ça a tenu le coup, mais ça a très peu concédé. En face, la Real, tu vois, en XG, c'est 0,57, 0,47. Donc, tu les as maintenus à quelque chose défensivement. Mais c'est vrai que, voilà, si tu avais eu cette constance, tu aurais pu faire vraiment un très très bon match sur 90 minutes. Là, tu as fait ce qu'il fallait. Tu finis premier, tu seras en huitième de finale. C'était pas forcément gagné quand on est rentré dans la compétition, dans ce groupe.
Surtout vu le niveau de Monaco en Ligue 1, qui s'est fait tourner par Clermont, par exemple.
C'est ça.
Et qui s'est fait tourner par Lille avant de revenir au score.
Donc, rendez-vous pour eux. Bon, on va les voir en Ligue 1 d'ici là, mais sinon, rendez-vous en février, en espérant que Kovac et son staff réussissent à régler les soucis d'ici là.
Je veux dire quelque chose, ça m'est sorti. Ah oui, sur le côté transition, en plus, Florent, la mauvaise nouvelle, c'est que Crépin Diata va être absent longtemps. Donc, ça t'enlève solution supplémentaire pour attaquer rapidement.
Globalement, ils n'ont plus que Gelson, je les confonds. Ouais.
Après, Golovin est assez malin sur des situations de transition pour trouver un mec qui a du temps. Mais oui, le souci, c'est que ce mec qui va avoir du temps va pas forcément avoir les cannes pour profiter du temps qu'il a d'avance.
Ça va passer. Enfin, la progression dans ce domaine-là va passer par l'adaptation de Boadou.
Ouais.
Il va falloir qu'il réussisse.
Après, déjà, s'ils retrouvaient leur niveau sur attaque placée, ce serait pas mal non plus. Parce que c'était quand même la force de leur deuxième partie de saison dernière.
Oui. Leur pressing et cette force sur attaque placée, ouais.
Mais même si là il y a eu quelques bonnes séquences qui ressemblent à la saison dernière, où t'avais un central qui trouvait Golovin demi-espace qui déviait pour Sidibé.
La première mi-temps est bien de ce point de vue-là, j'ai trouvé. Deuxième, tu sens que, enfin, il y a peut-être l'effet du score qui a fait bon, on attend et puis on voit comment ça se passe. Mais c'est vrai que attendre sans être en capacité d'être dangereux lorsque tu attends, ça rend les choses justement encore plus dangereuses quand tu n'as qu'un but d'avance.
Et Kovac n'a pas fait des changements rapides, hein. Il a attendu quand même assez tardivement pour envoyer des joueurs. Peut-être que les mecs étaient cramés, je sais pas, et qu'il a un peu trop attendu, alors que Al-Ghassi a fait rentrer deux joueurs dès la mi-temps. Ensuite, il a envoyé Torrentes à la 66e, Sarlot et Porto ensuite vers la 75e. Ouais, Monaco avait fait qu'un seul changement à ce moment-là.
Les deux de la mi-temps ont eu de l'impact, même si Barrenechea s'est un peu éparpillé au fil du truc. Mais par contre, les suivants,
Sarlot, c'est contre la 4 mètres et demi, parce qu'il joue en après-ski. J'arrive toujours pas à comprendre ce joueur, hein, sincèrement. Alors, on va pas faire 3 minutes sur Sarlot, mais.
On en revient à la taxe du championnat turc. Mouriki marquait plein de buts en Turquie aussi.
Oui, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la taxe du championnat turc qui fait que c'est 28 buts avec Trabzonspor n'ont pas forcément la même valeur que s'ils avaient été marqués ailleurs. Mais j'ai souvenir, j'en avais parlé dans des épisodes, notamment la saison dernière, de matchs où notre ami Nagelsmann le faisait rentrer comme ailier et il jouait ailier gauche, et alors qu'il doit faire, je sais pas, 1m95 kilos, il débordait, il passait en vitesse, genre il était vraiment arrêté, il poussait la balle, genre c'était Kingsley Coman, et il s'entrait en bout de course, et il allait faire une passe décisive comme ça. Et c'est-à-dire, il faisait ça sur 3-4 matchs, et tu dis, non mais attends, ce mec-là, il est... comment est-ce qu'il peut être aussi rapide, aussi vif, alors que c'est avant tout un gabarit, et derrière, il le faisait plus, et tu le remettais en pointe, et il n'arrive même pas à caler un ballon, alors qu'il mettait 15 kilos aux autres. Donc c'est-à-dire, c'est... même dans son profil, j'ai jamais vu un joueur avoir des qualités et des défauts aussi disparates d'un match sur l'autre. C'est vraiment d'un match sur l'autre, t'as l'impression qu'un coup c'est Kingsley Coman, un coup c'est Diagne, un coup c'est, je sais pas, un coup c'est moi, quoi. C'est pas logique.
Quiz. En dehors de sa saison à Trabzonspor, où il met 24 buts et 8 passes D en 34 matchs, c'est quand même une saison incroyable, combien de buts a-t-il marqué depuis 2015 entre club et sélection? Depuis 2015, donc ça va faire bientôt 7 ans.
Ouais, moins 1, donc 6.
Ouais.
6, 40.
Flo.
27.
Il a marqué. Alors sur Oscorde, depuis 2015, il y a 43 buts. Vous enlevez les 24 de Trabzon et on est à 19 buts depuis 2015.
Ouais.
Voilà. Là, il y a peut-être une question à se poser aussi sur pourquoi le. Et après, il y a plein de saisons où il joue pas, mais quand tu joues. Enfin, où il joue peu, mais quand tu joues peu, il y a une raison aussi.
Bah oui.
Donc voilà. Je veux bien, mais à un moment, il a fait. Enfin, en gros, depuis 2015-2016, il a fait une saison complète.
Après, la question, c'est son prix d'achat à Leipzig. Ça, c'est surtout ça l'incertitude, mais comme Moriki, les deux achetés à plus de 20 millions de mémoire, là-dessus, à ce prix-là, autant acheter les Girondins de Bordeaux, quoi. Ou Saint-Etienne.
Ou leur payer un repas aux Girondins de Bordeaux. qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur Monaco Real Sociedad? Bon, moi j'ai bien aimé Golovin, j'ai quand même vu le match, j'ai bien aimé Golovin toujours, parce que je trouve que c'est un mec qui a une vision supérieure aux autres, et d'ailleurs, sur l'action du but, il est très juste. Sur oui. L'1-2 avec Ben Yedder et qu'après il centre pour Folland, même si c'est les défenseurs de la Real Sociedad qui aident un peu Folland à marquer. Après, c'est toujours le côté frustrant de Golovin où t'aimerais voir ça sur 90 minutes et sur 2-3 semaines de suite. C'est pas toujours le cas. Il y a quand même une blessure de Badiachil qui peut être emmerdante pour Monaco parce qu'il sort en deuxième période et ça a l'air d'être au moins un claquage vu comment il sort.
On le reverra peut-être pas d'ici la trêve, quoi.
Et Fofana qui prend un rouge dans les dernières minutes en s'énervant parce que l'arbitre siffle pas une faute sur lui, derrière il découpe je ne sais plus quel joueur, et il va prendre combien de matchs pour ça, parce qu'il va peut-être manquer les huitièmes de finale à cause de ça.
Je dirais deux, parce que la faute n'est pas énorme, c'est juste l'intention où il y va clairement pour faire mal, mais il retient
le rouge direct, c'est...
Rouge direct, ça dépend, hein. C'est pas l'Angleterre où tu prends trois matchs. Moi je dirais deux. Après, ça fait partie des postes comme défenseurs centraux où il y a quand même une certaine homogénéité. C'est-à-dire, je pense que si tu mets Tchouaméni, Jean-Lucas, c'est pas exceptionnel d'avoir Jean-Lucas, mais ça fera le job. Là, ce soir, t'avais pas Tchouaméni, c'est passé. Comme en défense centrale, tu mets Dissasi, le bon Dissasi, il n'y a pas de différence avec Badiachil, ça dépend vraiment des semaines. Mais
Badiachil, c'est pratique qu'il soit gaucher quand même.
Oui, non, totalement. Et puis Dissasi a joué face à Lille de mémoire, ce qui, sur la première demi-heure, est, je pense, l'une des pires performances défensives de l'histoire du championnat de France sous l'instauration de l'appellation Ligue 1. Honnêtement, la première demi-heure Monaco défensivement face à Lille, c'est grotesque. T'en as qui courent vers l'avant, d'autres qui jouent le hors-jeu, certains qui jouent le hors-jeu, d'autres qui suivent les courses. C'est totalement délirant. Donc rien que le fait que cette équipe puisse, alors c'est embêtant de faire n'importe quoi, mais puisse se recadrer quelques jours après pour un match de Coupe d'Europe, c'est comme Lille en fait, malgré tout. Je pense qu'il y a un aspect psychologique parce que le plafond est tellement plus haut que ce qui est fait en championnat. Il est tellement plus souvent atteint. C'est-à-dire, c'est pas de manière random où tu lances les dés. Ah bah tiens, ce coup-ci on joue bien, ce coup-ci on joue pas bien. Lille comme Monaco joue vraiment mieux en Coupe d'Europe. Donc je pense qu'il y a quand même un aspect psychologique. Faut pas oublier que Monaco, les performances face au Shakhtar, qui n'a finalement pas grand-chose à faire en Ligue des Champions,
Il fait match retour est exceptionnel. Ouais.
Donc je pense vraiment que là-dessus, il y a un problème de concentration, d'investissement, je pense pas que le plafond soit nécessairement modifié. C'est juste que le niveau moyen est beaucoup plus bas, malheureusement.
Mais c'est dommage pour Monaco parce que vu les moyennes de points des 2e, 3e, 4e de Ligue 1 actuellement, si Monaco faisait des matchs sensiblement du même niveau que la deuxième partie de la saison dernière, ils seraient 2e assez tranquillement, je pense. Mais bon. Là, ils sont déjà à 5 points de la 4e place, Monaco, et Lille est à 7 points de la 4e place.
Ce qui n'est pas énorme non plus pour un 8e et un 12e.
Non, mais oui, on est d'accord. C'est la 4e, c'est pas la 2e, tu vois. T'as aussi Nice et Rennes, donc ça te fait du monde. T'as Marseille à passer aussi. Et vu que Marseille sera au mieux en Ligue Europa Conférence, s'ils la jouent de la même façon qu'ils ont joué à Ligue Europa, voilà.
De toute façon, il y a Brest qui est en train de gagner tous ses matchs et qui va finir Europa.
Brest n'est qu'à 2 points de Lille, hein, donc ça va vite en Ligue 1. De toute façon, entre Saint-Étienne, qui était condamné il y a 3 semaines, et Monaco. Et même Strasbourg, qui est 7ème, il n'y a que 7 points. Donc,
c'est moi ou c'est la Ligue 1 du millénaire ?
Tout va très vite dans le football. Il n'y a que le PSG qui est un peu hors sol dans cette compétition, et Metz de l'autre côté. Même si finalement ils sont qu'à 3 points de santé. Donc on va arrêter de parler de Ligue 1, et même on va arrêter de parler de Ligue Europa, puisqu'on a fait le tour des matchs français, à l'exception de Lyon, mais Lyon était déjà qualifié dans une poule où ils avaient gagné tous leurs matchs, et ils ont encore gagné contre Brøndby.
Un mot sur Cherki peut-être de Florent ?
Oui, Cherki, vas-y, c'est le moment de fanfaronner.
1 sur 2, ça me fait 1 sur 2 sur mes paris du coup, parce que j'ai dit que j'avais raté celui sur Monaco Real Sociedad, mais le doublé de Cherki qui me permet de passer une cote à 3,50. Justement, c'est bien pour la transition, non Raphaël ?
C'est très bien parce qu'en plus ça veut dire qu'il a déjà été plus décisif que Shaqiri cette saison quasiment.
Je crois que j'ai vu passer un des comptes qui associe ses stats en Europa League et en avec l'équipe de France Espoir, et il est à 6 buts et 2 passes D, je crois, ou quelque chose comme ça depuis.
Shaqiri il a un but et une passe D cette saison.
Et 6 bons choix.
Ce qui est classique, hein, c'est la moyenne dans sur une saison de la part de Shaqiri. Hein. Je sais pas pourquoi les gens sont surpris.
C'est premier podcast hater de Sherdan Shaqiri en langue française.
Ouais, j'espère qu'il a l'air assez costaud, donc j'espère qu'il comprend pas non plus pour l'instant le français et qu'il n'écoute pas vu du banc.
Bah, je pense que si, il comprend le français, on va dire, donc suisse, non ? Ils parlent tous 14 langues. Je suis sûr que tout le monde se fout de notre gueule parce qu'il a dû faire plein d'interviews en français ou autre, et en gros, tout le monde doit avoir cette info, mais je ne l'ai pas. Mais je pense qu'il parle français, non ? Peu importe. On le salue.
J'aimerais bien, je sais pas. Ouais, on le salue. Après, bon, j'ai été pendant très longtemps dur avec Terrier, et finalement, le mec, quand il est bon, je le reconnais.
Oui, mais t'étais le seul, du coup. Genre, on n'était pas.
Non, j'étais pas le seul, c'est pas vrai.
Enfin, moi, j'ai toujours.
Ah, de trois, tu veux dire ?
Oui.
Ah, oui, de nous trois, d'accord. Non, mais j'étais pas le seul sur Terre.
Oui, non, mais c'est pour dire que c'est rare qu'on soit tous alignés sur ne pas apprécier, entre guillemets, un joueur, en tout cas, ne pas comprendre le niveau dans lequel il évolue et la vision un petit peu générale de ses qualités, finalement.
On est plutôt unanime sur les incompréhensions.
Oui, c'est vrai. Mais on en a
sur
pas...
Sur Jean Lucas, par exemple, tu vois.
Oui.
Ou sur Mattia De Ciglio. Des joueurs comme
bon,
ça.
Après, c'est Mattia De Ciglio, je pense que le monde...
Sur... Non, mais par exemple, Davide Santon, sa carrière, c'est quoi le sens de la carrière de Davide Santon ?
Je sais pas, mais après, là, on va partir sur Francesco Coco et De Ciglio.
Et De Ciglio.
L'ancien Marseillais, et voilà, on va retomber sur nos marottes que les gens n'entendent pas forcément, mais qui sont nos discussions en privé H24 où ça n'a à chaque fois aucun sens.
Ouais, pensez à l'ami Krupoviesa, venu pour sauver l'OM lors d'un mercato d'hiver
et qui et a prendre des
un
rouges.
Souvenir impérissable. Krupoviesa, on va passer au Paris avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence
les
prono.
Les pronostics, où donc, Florent, tu as passé un pari. Est-ce que Christophe, tu avais passé un pari ? Non.
Alors non.
Betis Ferencváros, c'est ça, c'était le plus proche.
Non, mais par contre, avant un cours avec des premières années, mercredi matin, il m'avait demandé mon pronostic pour Manchester City-Paris. J'avais dit 2-1 pour Manchester City, et il m'a envoyé des messages sur Twitter le soir même en disant bravo pour votre pronostic. Donc ça n'intéresse personne, mais ça prouve que parfois je me trompe pas. Mais non, dans le contexte vu du banc, je me suis
arrêté. Est-ce qu'il y a des L1 qui t'écoutent ?
Non. Enfin si, il y a Hugo L1, mais c'est un de nos auditeurs. Mais sinon, non, je crois pas. Je crois qu'il y a un M1 qui écoute de temps en temps, un quatrième année. Mais je ne crois pas que les premières années m'écoutent.
S'il veut des infos croustillantes sur Christophe Kuchli, ça peut se négocier.
Après, maintenant qu'ils sont pas mal à me suivre sur Twitter, potentiellement, ils vont voir que je balance les liens et ils vont bien finir par cliquer. Sauf s'ils en ont marre de me voir déjà en journée.
J'ai beaucoup de screens de nos conversations à leur envoyer pour qu'ils sachent. On va continuer avec les paris. Donc, avec toi, Christophe. Tiens, on finira avec Flo. Puisque vous êtes tous les deux d'ailleurs partis sur la Ligue 1, notre beau championnat qui propose un week-end sympathique avec notamment un Saint-Etienne PSG, Christophe.
Oui, mais c'est un match que j'évoquerai après avoir évoqué Bordeaux-Brest. Bordeaux-Brest.
Vas-y, au café gourmand, vas-y.
Au café gourmand, mon pronostic sur ce match, c'est une victoire de Brest à 2,75. Brest qui gagnerait à l'extérieur. Alors bon, Bordeaux n'étant pas incroyable à domicile, la notion de domicile extérieur, bon après même à l'extérieur c'est pas incroyable non plus, mais la notion
il y a Flo qui, je sais pas si t'as vu Flo lever la tête dans le sens où est-ce qu'ils sont incroyables, dans quel contexte.
Vas-y. Oui, mais bon, ils ont... c'est vrai qu'ils ont genre deux victoires, il y en a qu'une seule qui est à domicile, enfin voilà, il n'y a pas le côté forteresse à la maison et en galère à l'extérieur. Donc du coup, j'efface un peu cette notion de domicile extérieur qui donnerait un avantage à Bordeaux. Et du coup, je mise sur le fait que nos amis de Brest, qui sont d'ailleurs passés devant Bordeaux au classement, sont une meilleure équipe actuellement, dans l'absolu potentiellement aussi. Et que, au-delà de la confiance d'une équipe qui a mis 4-0 à Lens et qui du coup pourrait nettement tout à fait battre Bordeaux, qui n'est pas spécialement en confiance, Brest est l'une des 5 équipes des 5 grands championnats à avoir marqué à tous ses matchs, avec les 2 Milan, le Bayern et Liverpool. Et voilà, c'est rien que cette garantie de but.
Ils ont battu Monaco aussi, hein, il y a peu de temps.
Oui, non, mais c'est ça, 3 victoires de suite, les 3 premières victoires de la saison.
5 matchs sans défaite.
2-1 à Lorient et 4-0 face à Lens. Une forme de retour à la normale, même si c'est un peu violent. Mais parce que cette équipe a quand même des très bons joueurs, enfin des bons joueurs en tout cas à l'échelle de la Ligue 1. Donc voilà, la victoire de Brest à l'extérieur me semble pas totalement déconnante. À partir du moment où tu peux mettre 4-0 à Lens, j'estime que tu peux battre une équipe bordelaise qui n'est pas forcément une terreur du championnat.
Même s'il faudra résister au Matmut Atlantique en fusion à venir ce week-end face à Brest, ça risque d'être le feu. Et on va aller voir Florent avant de faire ton pari, oui. Christophe, sur Saint-Etienne.
C'est mérité, hein, parce qu'après avoir parlé de Bordeaux, il faut prendre des nouvelles. Hein.
Il faut donner la parole à la victime. Florent, Lorient-Rennes ou Nice-Metz, ton premier match ?
Je vais partir sur Nice-Metz, parce que Christophe parlait de Bordeaux qui sort d'un match nul 3 partout face à Metz, justement, sur la pelouse du FC Metz, après avoir mené. Et Metz qui ne sait pas défendre concrètement, en tout cas sur ce match-là, c'était très compliqué.
Ce sont les deux pires défenses de Ligue 1, d'ailleurs, sont mis à 30 buts toutes les deux concédés en 14 journées.
Absolument, et alors qu'en face, Nice, je crois, est devant en termes de XG en première division. Donc Nice, ça tourne par contre plutôt bien. Ils se sont fait un petit peu bousculer par Clermont, mais ils sont sortis avec la victoire, notamment grâce à un Gouiri hyper efficace. Et du coup, je pars justement sur un but d'Amin Gouiri. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, mais bon, c'est
la cote est à 2,15.
Exactement, la cote est à 2,15, j'allais le dire. Et c'est simplement une des pires défenses du championnat qui affronte une des meilleures attaques. On prend un des mecs les plus prolifiques de l'attaque en question et on espère qu'il va marquer, quoi. Concrètement, quand on n'est pas trop inspiré, on peut toujours se rabattre sur ce genre de choses.
Non, mais c'est la logique fonctionne. Hein. On n'a rien à te reprocher sur ce pari-là. Et ça doit être un match de dimanche 15h, ça.
Eh bien, non, même pas. Non, c'est un match du samedi, j'ai l'impression, parce que dimanche 15h, je ne le vois pas. Je crois que c'est samedi. Enfin, je vais te confirmer ça tout de suite. C'est en effet samedi soir. Samedi soir 21h.
Le choc du samedi 21h, sachant que le dimanche 21h sera le choc Marseille 3. Donc pensez pour les audiences.
Mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ? C'est bizarre ces choix. Pourquoi pas
Saint-Et-Paris ? Il n'y a pas d'affiche en fait particulièrement.
Ouais, mais Saint-Et-Paris entre tu vois, le chaudron. Mais après, peut-être, je sais pas.
Je crois qu'on part aussi sur une semaine où il y aura 3 journées de Ligue 1. C'est-à-dire ce week-end,
oui, c'est ça, ça rejoue mardi, mercredi. Donc du coup, tu peux pas faire jouer tout le monde trop tard.
D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour ce premier pari, Flo. On retourne voir Christophe qui, cette fois, va bien nous parler du match entre Saint-Etienne et le PSG, entre les premiers du championnat et les avant-derniers.
C'est ça. Et donc mon pari, c'est Saint-Etienne mène 1-0 à la mi-temps et Paris l'emporte 2-1 en fin de match. C'est cote à 35. Je pense que ce pari est trop évident pour que j'aie besoin de le justifier. A priori, c'est quand même...
C'est la scénario. Après, le PSG, c'est plutôt à domicile qu'ils font ça d'habitude. Mais pourquoi pas à l'extérieur ?
Non, mais au-delà de la vanne, je pars sur l'idée... Alors évidemment, c'est une cote à 35, donc je vais pas vous dire que c'est la plus grosse probabilité. Mais c'est quand même un scénario... Paris n'est pas forcément bon, Paris est mené, Paris se réveille et Paris finit par gagner le match, on ne sait pas trop comment. Alors c'est pas toujours dans ce sens-là, parfois ils mènent, ils sont repris, notamment face à Nantes, c'est pas forcément 2-1, ça peut être 3-1, ou alors c'est pas forcément à la mi-temps qu'ils sont menés, ils peuvent revenir avant la mi-temps, enfin bref.
Est-ce que tu n'aurais pas dû tenter le Saint-Etienne mène à la mi-temps et Paris l'emporte ?
Alors j'aurais pu, mais déjà t'es pas mon père. J'aurais pu, mais ce pari-là m'intéressait. Je suis sur l'idée qu'en fait, Paris, en gros que Saint-Etienne ne peut pas marquer plus d'un but à Paris, avec tout le respect que j'ai pour Crasso et compagnie. Hein, je suis pas persuadé que l'équipe stéphanoise, hors coup de pied arrêté, puisse mettre plus d'un but à Paris. Et dans mon idée, Paris mettra le but vainqueur à la 89e, donc du coup n'aura pas forcément les moyens de mettre encore un but supplémentaire peu de temps après, alors que s'il mettait le 2-1 à la 60e, il pourrait gagner 3-1, 4-1 en étant mené à la mi-temps. Donc voilà, et puis c'est mon pari. Donc si t'es pas content, c'est pareil. Et si la cote de 35 passe, je peux te dire qu'on va m'entendre jusqu'au prochain épisode.
tes étudiants seront au courant assez rapidement, je pense, si elle passe. Tu vas fanfaronner comme je ne saurais pas le faire. Flo, ton dernier pari, c'est sur Lorient-Rennes, le derby.
Oui, et le pari, c'est que les deux équipes vont marquer et que l'une des deux va gagner le match. Alors, je penche plus pour une victoire rennaise. Mais pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit en tout début d'émission, sur les matchs du stade rennais, et le fait que Rennes est une équipe qui ouvre les matchs, qui ne les contrôle pas trop, pas forcément.
Et après, Lorient est la pire attaque du championnat, Flo.
Oui, mais je pense que Lorient est une équipe qui reste redoutable sur les transitions, avec Lorienté et Mofi, quand ils sont aptes, ou bien, je ne sais plus, j'ai perdu son nom, c'est Diarra, qui accompagne Mofi.
Stéphane Diarra, l'ancien du Mans.
Qui est plutôt pas mal aussi quand il faut accompagner Mofi, quand Lorienté n'est pas là. Et bref, Lorient a quand même des profils en transition qui peuvent faire très mal, et on a évoqué rapidement le possible déséquilibre des Rennais lorsqu'ils attaquent. Donc je me dis que Lorient, même si en effet c'est pas l'attaque la plus flamboyante du championnat, aura sans doute des arguments face à une équipe de Rennes qui va attaquer, mais je pense que dans l'autre sens, Lorient sera capable de marquer au moins un but. Et dans ce cas, voilà, le pari passe, la cote est à 2,30, donc les deux équipes marquent et il y a un vainqueur à la fin.
Lorient n'a marqué que deux fois deux buts depuis le début de la saison.
Il en suffit.
Oui, une fois à Lens et une fois à domicile contre Lille, et depuis ils ont marqué, je vous cite match par match, 0 but, 1 but, 1 but, 1 but, 1 but, 1 but, 0 but, 1 but et 0 but. Donc il en faudrait au moins un, mais du coup ça peut justifier le fait, Flo, que Rennes l'emporte tout en concédant un but. Hein, donc ça fonctionnerait avec Paris. Et c'est vrai que Rennes a tendance à gagner en prenant des buts, même contre Lyon qui était cata. Ils avaient fini par concéder un but, le fameux penalty de Paqueta. Merci Flo pour ces deux paris, merci à Christophe pour ses analyses et ses paris également. On se retrouve
Dans deux semaines, ouais, c'est ça, c'est vers le 6-9, je sais pas.
Je trouve que c'est le 7 et le 8. Mais
bon, voilà. 7 et 8. Faut qu'on étudie le calendrier pour savoir exactement de quoi on parlera, mais on fera au moins bilan Ligue des Champions et bilan Ligue Europa, et puis on se projettera vers les tirages.
Ce sera surtout la semaine de la finale Wolfsburg-Lille, le 16e de finale de Ligue des Champions. Et on espère que Lille arrivera à se qualifier, puisque de l'autre côté, le PSG l'est déjà. Et pour les autres clubs français aussi, c'est déjà quasiment joué, à part Marseille, qui doit sauver sa place en Ligue Europa Conférence. Voilà l'enjeu de la dernière journée de Coupe d'Europe. À bientôt. Ciao.
Salut.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.